aujourd'hui, on se rend compte que cette course à l'échalote, de vouloir toujours montrer qu'on a toujours quelque chose de nouveau dans la course à l'innovation à montrer, elle s'essouffle. Et on est incapable de se réinventer sur des choses qui sont cruciales pour l'avenir.
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Salut tout le monde et bienvenue dans le 33e épisode du podcast des éclaireurs du numérique. Un podcast un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'il est amputé d'un tiers de ses effectifs et pas n'importe quel tiers. Fabrice Épalouin qui est un peu souffrant aujourd'hui et qu'on salue. On va donc faire ce podcast avec Damien Douani et moi. Salut Damien.
Salut Bertrand. Oui, on pense très fort à Fabrice du fond de son lit.
Alors, on a décidé de parler d'une actualité qui est quand même un petit peu encore tiède, on va le dire. C'était le CES de Las Vegas cette année parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été racontées là-dessus. Et qu'on s'est rendu compte que ce CES, qui n'est pas apparu comme étant un événement absolument notoire comme il a pu l'être d'autres années, en fait, c'est pas inintéressant qu'il n'ait pas été aussi marquant que ça, selon nous.
Ouais, le CES, pour moi, de cette année, c'est, d'abord, il faut se rappeler que le CES, c'est la Foire de Paris. Ouais. Hein, pour ceux qui connaissent, où, en gros, c'est immense en termes d'infrastructure et tout le monde, on présente tout et n'importe quoi. C'est ce qu'il faut bien avoir en tête.
En tout cas, c'était la Foire de Paris jusqu'à présent. Peut-être que ça allait un petit peu moins, d'où le recul du nombre de startups françaises, voilà. Finalement, où tout et n'importe quoi n'était pas présent. Encore que.
C'était un outil aussi de communication, notamment pour la French Tech, qui cette année a réduit la voilure, parce qu'ils ont bien compris qu'il d'abord, ce serait bien d'y aller un peu derrière un pavillon commun, ce qui n'a pas été fait les autres années. Et ça, c'est une première bonne chose. Et effectivement, ils ont été un peu plus sélectifs aussi cette année, ce qui est pas mal.
Oui, on a eu moins de startups totalement délirantes, qui n'avait absolument rien à voir avec les nouvelles technologies.
Quoique, la patate connectée, c'était pas très très mal.
Alors parlons-en tout de suite. Potato, la patate connectée, c'est quand même le gros coup de ce CES 2020. Quoi. Le type a réussi un truc génial. Quoi.
Il a fait un truc génial, cette patate connectée qui envoie des messages à un téléphone. Moi, ce que je trouve génial, et d'ailleurs qui, à mon avis, est très révélateur de cette année-là, cette édition-là, c'est le fait d'être ironique par rapport finalement à ce qui se fait. Parce que qu'est-ce qu'elle représente cette patate ? Ben, cette patate, elle représente quelqu'un qui s'est dit « Moi, j'ai envie de m'amuser, je vais payer 4 000 $ et je vais montrer que je peux avoir un stand au CES avec un truc complètement délirant qui ne sert à rien. »
1 000 $ seulement, le stand, finalement.
Voilà.
Et le type a eu son accès, mais en 2 secondes, quoi, vraiment.
Exactement. Ouais. Et donc, d'abord, ça montre qu'en termes de sélectivité, on peut en discuter, mais c'est le principe de la foire. Et deuxième élément, c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça ne sert à rien, donc c'est peut-être rigoureusement indispensable, comme disait à l'époque Jean Bonaldi. Dans tous les cas de figure, ça montre aussi qu'on arrive, à mon avis, à un moment de bascule par rapport à tout ça. Est-ce que véritablement tout ce qu'on présente au CES est réellement indispensable ?
Il a vraiment disrupté l'événement, lui, avec son histoire. Parce
oui,
que
bah surtout, il a réussi à faire parler de lui aussi. Un grand bravo.
Les grands médias américains ont parlé de cette histoire-là,
oui,
quand même. C'est un truc de malade, quoi, vraiment.
C'est extraordinaire. C'est la preuve, d'ailleurs, qu'on peut faire parler de soi pour pas grand-chose.
Et je lisais dans le pré-rapport de notre ami Olivier Zorati, en fait,
l'excellent
le type
rapport.
Cherche du boulot, en fait. Ce gars-là cherche du boulot, en fait. Donc,
ah non, mais l'idée est géniale pour faire parler de soi, pour trouver du taf. C'est le coup de RP. Génial pour pas grand chose.
Alors Potato, bon voilà, c'est un gag, mais enfin ça dit quand même un petit peu quelque chose en creux.
Il y en avait eu l'année dernière, ouais. Moi je te coupe, mais il y en avait eu l'année dernière qui s'était moins bien passé. Il y avait eu l'année dernière au CES une boîte qui avait fait croire qu'un robot s'était échappé et qu'il avait été renversé par une voiture. Je sais pas si tu te rappelles cette histoire-là, mais ça s'était beaucoup moins bien passé parce que tout le monde, il y avait une vidéo de tournée. Le problème, c'était une fake news et donc par conséquent une infox et donc par conséquent, les gens n'avaient pas du tout apprécié qu'on se foute de leur gueule. Par contre, le coup de la patate, très très bon.
Globalement, c'est pas une année extrêmement marquante. Qu'est-ce qu'on va retenir de ça en fait ? C'est qu'il y a une espèce de course au pompon de savoir qui fera le plus grand nombre de cas sur les télés, par exemple, les écrans télé. Donc 16K maintenant. Est-ce que ça sert à vraiment à quelque chose ce délire-là ?
Moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, c'est une année de transition. Le problème du CES, c'est que c'est un exercice. C'est une sorte de formule imposée où, en gros, quand on va dans un événement comme le CES, il faut sortir les muscles et il faut toujours montrer qu'on est le meilleur, qu'on a toujours quelque chose de nouveau à montrer. Alors, les autres années, on a eu l'écran enroulable de LG, qui était une super innovation. Des choses comme ça. On a l'IA, qui a été très très forte les années précédentes. Et là, cette année, on sent qu'on est à une sorte de fête. De bascule sur le fait de se dire tout ça c'est un peu plus mature, l'IA elle est présente mais on va peut-être se calmer un peu sur ce qu'on imaginait de ce qu'on pouvait en faire, on n'est pas dans Terminator. Il y a plein de choses comme ça qui sont véritablement dans une logique de maturation et je pense que l'innovation elle a des paliers et les futures innovations seront peut-être beaucoup plus radicales, mais aujourd'hui on est dans une logique incrémentale et l'exercice du CES, c'est de montrer qu'on est toujours les meilleurs. Donc, il faut montrer les muscles, à l'image de Samsung Neon, les fameux pseudo, j'ai bien dit pseudo, personnages, on va dire, virtuels, qui, honnêtement, pour l'instant, sont uniquement de la CGI bien faite. Hein. Il n'y a aucune humanité derrière, et encore, on verra si un jour ça existe. Mais l'IA est très très faible, on ne peut pas discuter avec eux. Ça fait rêver d'un point de vue visuel, mais honnêtement, c'est juste de la com. Et donc, par conséquent, la sensation que j'ai, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que cette course à l'échalote, de vouloir toujours montrer qu'on est les meilleurs et qu'on a toujours quelque chose de nouveau dans la course à l'innovation à montrer, elle s'essouffle, très clairement. Et on est à un moment où on s'essouffle.
D'autant que dans une période où on a vraiment, vraiment besoin de trouver des solutions extrêmement rapides pour sauver la mise de l'humanité ou de la planète, on s'aperçoit bien que tous les tenants du solutionnisme technologique n'en ont pas eu pour leur argent avec ce CES. C'est-à-dire que la high-tech aujourd'hui montre qu'elle est assez incapable, assez globalement, de proposer des solutions immédiates aux grands problèmes qu'on affronte. Ça, c'est quand même quelque chose qui ressort aussi du CES. C'est-à-dire qu'on fait des 16K, on fait de la 5G, c'est génial, les écrans
souples. En fait, on est capable d'améliorer encore plus loin ce qui est l'existant, l'exemple typique de les écrans 8K, les écrans XK, mais au bout d'un moment, on s'en fout, je veux dire. Prenons un exemple très simple, les écrans OLED, super, on a du noir absolu, mais est-ce que l'œil est capable de le voir? Non. Donc, par conséquent, il y a une sorte de course à l'échalote d'aller toujours plus loin sur des choses qu'on connaît, mais on est incapable de se réinventer sur des choses qui sont cruciales pour l'avenir. Et très clairement, ça, c'est le truc. Moi, j'aurais voulu cette année qu'on ait énormément de start-up ou de grandes sociétés qui prennent des solutions réelles sur l'avenir de la planète. J'ai pas vu ça.
Dans un podcast récent, on imaginait une start-up qui s'appelait Tokenize. Tokenize, ça permettait d'envoyer des bateaux récupérer l'eau des icebergs qui se détachent. Ouais. Au moins, on en faisait quelque chose. On en faisait de l'eau qu'on amenait dans les pays qui vont en manquer cruellement. Il y avait quelque chose d'un peu délirant, mais très vertueux d'un point de vue environnemental là-dedans. On n'a rien vu qui ressemble à ce genre de truc du tout. On ne voit pas de solution comme ça.
Non, par contre, on a de la voiture connectée avec de l'IA et de la 5G.
Voilà.
Et le problème, c'est que moi, sincèrement, la vision de Salesforce du bureau connecté dans la voiture pour dire vous pouvez commencer à travailler avant d'arriver au bureau, ça ne me fait pas rêver. Alors si la vision de Sony est intéressante, Sony qui se met à faire des voitures, ça c'est intéressant parce que c'est une extension du domaine de la lutte commerciale de Sony face à d'autres, et le fait de sortir de son domaine, pourquoi pas, ça veut dire que demain on peut imaginer très réellement qu'un Apple, un Google, mais on le sait déjà, ou un Sony se mettre à être des concurrents de GM, de PSA ou de Renault, ça très bien, mais la question de fond, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, est-ce qu'on a besoin d'être tout le temps connecté,
est-ce qu'on n'est pas dans une période très charnière dont tu parlais où finalement il y a une déconnexion qui est en train de se faire très nettement entre la high-tech et puis finalement ce dont le monde a besoin, parce que tout ça, ça serait créé par des ingénieurs qui sont un petit kiff à aller toujours un peu plus loin dans la technologie pure, mais qui ont du mal à inventer d'autres façons de penser la technologie au service d'eux.
Sortir de la vision en case, ça c'est un vrai questionnement. Arriver à voir le problème différemment, c'est pas que les ingénieurs, mais effectivement oui, ça y concourt très clairement. C'est cette notion pour les sociétés d'arriver à se réinventer et à sortir justement de la vision qu'elles peuvent avoir. Très très compliqué, c'est tout le problème de l'innovation en général. Mais là, je pense qu'on est vraiment, cette année, on a un focus là-dessus qui est très très criant. Pour moi, 2020, c'est une année qui est charnière. D'ailleurs, dans 2020, il y a 20 et 20. Donc, c'est autrement dit, on est dans une année miroir. On est dans une année d'ambivalence. On est dans une année où, par exemple, les gens commencent à se poser des questions sur les données personnelles. Et puis, à côté de ça, continuent quand même à utiliser du Facebook. On commence à se poser des questions sur l'environnement, mais on ne voit pas arriver de solution. Et puis, à côté de ça, on veut être livré en 2 heures à la maison, sans se poser la question de l'empreinte carbone, par exemple, des data centers, parce qu'on est super content de regarder Netflix. Mais quand même, on se pose des questions là-dessus. Donc, ces ambivalences dont je viens de parler, il y en a quelques-unes, je pourrais vous faire une page entière sur le sujet, on commence à les voir apparaître et on est vraiment dans une logique de bascule, de fête, vraiment de ligne de crête. Et je pense que cette année, le CES en creux était révélateur de ça.
Parce qu'on en a déjà parlé dans un autre podcast, la 5G c'est quand même quelque chose par exemple qui est destiné avant tout aux entreprises, c'est pas du tout grand public, on n'en a pas besoin globalement au niveau du grand public, globalement je dis bien, on a vu des écrans à $1 million là qui étaient dans le truc, donc la question qui se pose aujourd'hui c'est est-ce que la high-tech est en train de devenir un sport de riche finalement, qui serait réservé à une petite élite qui se fait plaisir, qui kiffe le fait d'avoir toujours le truc un peu plus branchouille que l'autre, mais finalement la notion même du progrès tel qu'on l'a imaginé depuis 200 ans avec la révolution industrielle serait en train d'être battue en brèche finalement. On va plus vers quelque chose qui est du progrès collectif avec la technologie, en tout cas moins visible au CES cette année.
On est dans une mécanique très j'ai envie de dire capitaliste, sans rentrer dans des notions politiques. J'aurais laissé là ça à Fabrice s'il était là. Ouais. Mais cette logique-là de dire toujours plus, toujours aller dans l'amélioration pour toujours arriver à vendre, oui, effectivement, je pense que de ce point de vue-là, la technologie est en train de se cornériser, en fait, de se mettre dans un coin pour une population très particulière. À côté de ça, moi, j'aurais préféré qu'on parle de la question de la sécurité des objets connectés dont tout le monde veut essayer de nous fourguer à la maison, quand on sait que là, 90% des objets connectés ne sont pas sécurisé et que demain on peut arriver à prendre contact, on peut connecter son téléphone à n'importe quelle caméra dans une maison.
Bon, moi j'aurais envie de dire à tous les solutionnistes technologiques, prenez le temps de réfléchir un tout petit peu, trois grandes respirations, réfléchissez à ce qui se passe et peut-être interrogez-vous sur ce que vous pensez être la panacée de la technologie. Et puis qu'est-ce que tu vas retenir toi finalement de ce CES au bout du compte?
Ah, au bout du compte, le robot qui amène du papier toilette.
Ah oui. c'est de Procter & Gamble. Hein. Bon, ils ont une légitimité à faire ça. Bon, enfin, du robot qui amène le papier toilette. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au fin fond du délire là? C'est de la parodie totale.
Alors, je pense que c'est peut-être pas comme la patate connectée, mais on n'en est pas loin.
Enfin, eux-mêmes l'ont certainement vécu aussi comme une forme de gag en disant, bon voilà, on fait du papier toilette et des produits de vaisselle, on est capable aussi d'être un peu technologique. Il y a ça aussi.
Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois des choses qui sont révélatrices d'un délire totalement occidental, vraiment, sur le côté... tout et n'importe quoi pour nous servir. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a dans le film Wall-E, hein, des gens qui se baladent sur des fauteuils flottants et qui ne font plus rien de leur vie et qui ne savent plus comment tout fonctionne. Ça, je pense qu'il y a un truc qui est en train d'aller vers là. Et à côté de ça, il y a, ce que je retiendrai, une certaine maturité quand même de certaines choses. Il y a des choses qui ont dégonflé. La hype autour de l'IA est en train de se calmer, heureusement d'ailleurs. On se rend compte que l'IA, c'est quand même con comme un balai. À partir du moment où on n'a pas le bon jeu de données, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc, très clairement, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se dégonfler, heureusement, qui sont en train de se mettre en place de manière plus fine. Donc c'est vraiment cette sensation-là et à la fois cette logique vraiment hyper consumériste de qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à vendre des nouvelles choses technologiques. Et j'ai cette sensation qu'on essaie de faire rentrer un rond dans un carré parce que je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui...
Ah, monsieur a vu le grand bain.
Pardon ?
Monsieur a vu le grand bain.
Non, mais c'est une expression que j'adore, ouais. Qui est vraiment de se dire mais est-ce qu'on peut arriver, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Et c'est vraiment le ressenti que j'ai.
J'étais en train de me dire, pour terminer ce
et
podcast...
Et c'est un geek qui vous dit ça. Hein.
Ouais, qu'est-ce que Fabrice Épellebois aurait dit sur le sujet du CES ?
Ah, Fabrice, il aurait parlé des données personnelles, il aurait parlé de la protection de celles-ci, des GAFA, des BA. Il aurait parlé peut-être du gouvernement français qui essaie de faire des claquettes avec la French Tech encore là-bas. Des choses comme ça. Mais on va pas parler pour lui. Hein.
On parle pas pour lui. Allez, salut Fabrice. On espère que tu vas mieux et on se retrouve la semaine prochaine. Et toi aussi, Damien.
Ciao, salut.
Salut.